Jacques Delisle, le jeune peintre égaré dans les catacombes. Sous les remparts de Rome et sous ses vastes plaines sont des antres profonds, des voûtes souterraines, qui, pendant 2000 ans, creusées par les humains, donnèrent leurs rochers au palais des Romains. Avec ses rois, ses dieux et sa magnificence, Rome entière sortit de cet abîme immense. Depuis, loin des regards et du fer des tyrans, l'Église encore naissante y cacha ses enfants, jusqu'au jour où, du sein de cette nuit profonde, triomphante, elle vient donner les lois au monde et marqua de sa croix les drapeaux des Césars. Jaloux de tout connaître, un jeune amant des arts, l'amour de ses parents, l'espoir de la peinture, brûlait de visiter cette demeure obscure de notre antique foi vénérable berceau. Un fil dans une main et dans l'autre un flambeau, il entre. Il se confie à ces voûtes nombreuses qui croisent en tous sens leurs voûtes ténébreuses. Il aime à voir ce lieu, sa triste majesté, ce palais de la nuit, cette noble cité, ces temples où le Christ vit ses premiers fidèles, et de ces grands tombeaux les ombres éternelles. Dans un coin écarté se présente un réduit, mystérieux asile où l'espoir le conduit. Il voit des vases saints et des urnes pieuses, des vierges, des martyrs, des dépouilles précieuses. Il saisit ce trésor, il veut poursuivre. Hélas, il a perdu le fil qui conduisait ses pas. Il cherche, mais en vain. Il s'égare, il se trouble. Il s'éloigne, il revient, et sa crainte redouble. Il prend tous les chemins que lui montre la peur. Enfin, de route en route et d'erreur en erreur, dans les enfoncements de cette obscure enceinte, il trouve un vaste espace, effrayant labyrinthe, d'où 20 chemins divers conduisent à l'entour. Lequel choisir? Lequel le doit conduire au jour? Il le consulte tous. Il les prend, il les quitte. L'effroi suspend ses pas. L'effroi le précipite. Il appelle. L'écho redouble sa frayeur. De sinistres pensées viennent glacer son cœur. L'astre heureux qu'il regrette a mesuré 10 heures depuis qu'il est errant en ses noires demeures. Ce lieu d'effroi, ce lieu d'un silence éternel, en 3 lustres entiers voit à peine un mortel. Pour comble de malheur, dans cette nuit funeste, du flambeau qui le guide, il voit périr le reste. Craignant de chaque pas, de chaque mouvement, en agitant la flamme, en use l'aliment, quelquefois il s'arrête et demeure immobile. Vaine précaution, tout soin est inutile. L'heure approche, et déjà son cœur épouvanté croit de l'affreuse nuit sentir l'obscurité. Il marche, il erre encore sous cette voûte sombre, et le flambeau mourant fume et s'éteint dans l'ombre. Il gémit. Toutefois, d'un souffle haletant, le flambeau ranimé se rallume à l'instant. Vain espoir. Par le feu, la cire consumée, par degrés, s'abaissant sur la mèche enflammée, atteint sa main souffrante de ses doigts vaincus, les nerfs découragés qui ne la soutiennent plus. De son bras défaillant, enfin la torche tombe, et ses derniers rayons ont éclairé sa tombe. L'infortuné, déjà, voit son spectre hideux, le délire brûlant, le désespoir affreux, la mort. Non cette mort qui plaît à la victoire, qui vole avec la foudre et que part la gloire, mais lente, mais horrible, étreignant par la main la faim qui se déchire et se ronge le sein. Son sang, à travers ses pensées, s'arrête dans ses veines, et quels regrets touchants viennent aigrir ses peines. Ses parents, ses amis qu'il ne reverra plus, et ses nobles travaux qu'il laissa suspendus, ses travaux qui devaient illustrer sa mémoire, qui donnaient le bonheur et promettaient la gloire. Cependant, il espère, il pense quelquefois entrevoir les clartés, distinguer une voix. Il regarde, il écoute. Hélas, dans l'ombre immense, il ne voit que la nuit, n'entend que le silence. Et le silence ajoute encore à sa terreur. Alors, de son destin, sentant toute l'horreur, son cœur tumultueux roule de rêve en rêve. Il se lève, il retombe et soudain se relève, se traîne quelquefois sur de vieux ossements, de la mort qu'il veut fuir, horrible monument. Quand tout à coup, son pied trouve un léger obstacle. Il y porte la main. Aux surprises, au miracle. Il sent, il reconnaît le fil qu'il a perdu. Et de joie et d'espoir, il tressaille éperdu. Ce fil libérateur, il le baise, il l'adore. Il s'en assure, il craint qu'il ne s'échappe encore. Il veut le suivre, il veut revoir l'éclat du jour. Je ne sais quel instinct l'arrête en ce séjour. À l'abri du danger, son âme encore tremblante veut jouir de ces lieux et de son épouvante. À leur aspect lugubre, il éprouve en son cœur un plaisir agité d'un reste de terreur. Enfin, tenant en main son conducteur fidèle, il part, il vole au lieu où la clarté l'appelle. Dieu, quel ravissement quand il revoit les cieux, qu'il croyait pour jamais éclipsés à ses yeux. Avec quel doux transport il promène sa vue sur leur majestueuse et brillante étendue. La cité, le hameau, la verdure, les bois semblent s'offrir à lui pour la première fois. Et, rempli d'une joie inconnue et profonde, son cœur croit assister au premier jour du monde. Lue par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre.
Fort libre indépendant, voici votre animateur Distoman.
Pour cette édition exclusive du 19 juin 2023. Et oui, bienvenue à ces Disto News exclusifs. Une présentation, bien entendu, de distoman.com, parce que c'est moi, puis vous êtes sur mon site, et de radioimpact.ca, de l'excellent Guy Boulian. On va essayer de vous faire entre 20 et 30 minutes de contenu corsé, structuré. Avez-vous consulté le blog? L'avez-vous partagé? Avez-vous lu le site web du jour? Bien oui. Tout ça, c'est disponible pour vous. Je suis accompagné, bien entendu, à la recherche par Panda Patriot depuis le Saguenay et par Marie-Ève depuis Monkeypox Montreal. Dans la gang, on a Jean-Luc Blackburn, Vic Survivaliste, Guy Boulian. Amen. Ben oui, tous partenaires, main dans la main, pour essayer d'avancer un peu. Bon, pour vous faire un topo à propos de l'espèce de petite niaiseuse là, qui a fait une liste des conspis qui m'a crissé dedans. C'est tellement signifiant que ça vaut même pas la peine d'en parler. Je pense que la madame est mêlée un petit peu, puis elle a peut-être besoin d'un cours pour essayer de démêler qui est conspi et qui ne l'est pas vraiment. Revenons-en à nos moutons, nos deux imbéciles en chef, c'est-à-dire Legault et Trudeau. Mais commençons par Trudeau. Non, commençons par Legault. Tiens, ouais. Voyez-les au plus insignifiant des deux, celui qui a le moins de pouvoir. Bref, le Maurice Duplessis des temps modernes. Il faut vous dire que l'augmentation des prix d'immobilier au Québec, selon Legault, c'est une conséquence négative d'un bien-être économique. Le gars fume du pot en tabarnak. Il utilise trop de produits, la SQDC. Le gars, il est déconnecté. Il n'est pas avec nous autres. Vraisemblablement, ça semble être un pousseux de l'agenda de Davos parce que eux autres, ils veulent monter le prix des loyers, ils veulent que tout coûte extrêmement cher, fait que par la bande, ils vont être en mesure d'atteindre leurs objectifs de l'agenda 2030 au travers de ces augmentations-là. Veux pas, tout augmente. À un moment donné, tu consommes moins, tu sors moins de chez vous. Fait qu'eux autres, c'est win-win. Ils empochent tous les intérêts avec leur banque et puis en même temps, ben, les esclaves restent bien tranquilles à la maison. La situation socio-économique des ménages. Bon, ceux-là qui sont locataires, ça se détériore de façon préoccupante dans tout le Canada où c'est de plus en plus tough de trouver un logement salubre et sécuritaire à un prix abordable. Alors, il y a un indicatif du logement locatif. C'est une base de données qui est compilée à partir Bon, du dernier recensement 2021, ça date. Ça a été fait en collaboration avec les associations de logement et les associations municipales au pays. Bien, gang, le prix des loyers a explosé de 21% en moyenne au Canada entre 2016 et 2021. Trudeau est arrivé au pouvoir en 2015. Fait qu'il fait bien sa job, le petit Chris, là. La hausse, elle a atteint 30% en Colombie-Britannique, 27% en Ontario, 24% au Yukon. Au cours de la période étudiée au Québec, l'augmentation moyenne des loyers a été d'à peu près 14%. Il faut dire qu'en 2022, on cherche des raisons à tout ça, le Canada a accueilli à peu près 1,1 million de résidents permanents et temporaires, soit plus du double du quota de 430 000 personnes fixées par le gouvernement Trudeau lui-même cette année-là. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que tout ça, ça a un rapport avec la rareté du logement? C'est sûr, on n'est pas des caves, on connaît le marché. Mais en même temps, Trudeau, il ouvre les vannes parce que pour lui, c'est win-win encore une fois. Il va chercher des gens qui vont voter pour lui parce que le monde sont endormis, là, ils ne se réveillent pas. Et puis en plus, eh bien, il pousse de manière exponentielle l'agenda de 2030 de Davos par la bande, à cause que tout augmente, donc le monde a moins de moyens, ils ne sont plus capables de se battre, ils sont à côté. Le 1er juillet, ils paniquent, il faut qu'ils se trouvent un logement, ils ne sont pas capables de s'en trouver. Bref, la souris a fait virer la roue. Là. Puis là, le hamster a fait virer la roue. Puis là, à un moment donné, ben, c'est ça. Le hamster, il n'est plus capable. Fait que le hamster se tasse sa ligne de côté puis devient un sans-abri. C'est ça qu'il veut, Trudeau. Des milliers de sans-abri. Et tout ça, c'est en train de se concrétiser en Californie. On voit, il y a des villes comme San Francisco qui sont en train de littéralement de s'effondrer sur elles-mêmes. Et bientôt, ça va être le sort de Toronto, de Vancouver, de Montréal. Ça s'en vient, mesdames et messieurs. Ils veulent vous remplacer par autre chose. Parlons-en de Trudeau, justement. Le gars, il est fucking sacrement. Trudeau, y a-tu vraiment défini comme d'extrême droite les parents qui ont affirmé leur droit de prendre des décisions pour leurs enfants mineurs à propos des questions de sexualité? Faut se poser la question. Alors, voici ses mots exacts. Réagissait comme il était à la législative du premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, qui exigeait que les enfants de moins de 16 ans aient la permission parentale, bon, pour changer leur nom ou leur pronom à l'école. Alors, Trudeau a dit « Malheureusement, comme vous le savez tous, nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin que l'Ouganda. Nous voyons cette rhétorique en colère haineuse à la hausse sur notre propre continent, ciblant en particulier les personnes transgenres. » Là, ce style-là, il continue. « Les personnes transgenres sont parmi les personnes les plus vulnérables de la communauté de SLGBTQI.27679.0. Confrontés à des taux élevés de violence et de suicide. » Bon. Et là, il dit que les acteurs politiques d'extrême droite tentent de surpasser avec les types de cruauté et d'isolement qu'ils peuvent infliger à ces personnes-là qui sont déjà vulnérables. Autrement dit, le gars, c'est un hostile marin de marbre. Alors, donc, non. Il n'a pas dit que les parents préoccupés parce que les enfants apprennent à l'école étaient d'extrême droite, mais il a dit qu'il s'agissait d'une question d'extrême droite. Fait que le gars joue sur les mots, là. Puis, il y a des raisons pratiques à tout ça. C'est une distinction sans différence. Une personne raisonnable qui écoute ce gars-là, puis qui prend particulièrement note de l'avantage dans sa livraison du soi-disant Rainbow Railroad, bien, cette personne-là conclurait que notre premier ministre, bon, en ce qui concerne les droits parentaux, c'est une option inacceptable à répudier avec le racisme, la misogynie et la suspicion à propos des vaccins. C'est l'évidence même. Le gars, il est fucké. Il est vraiment fucké dans sa tête, là. Fait qu'écoutez, à ce sujet-là, vous n'avez pas besoin de contrer les arguments bon, factices et égoïstes. Non, non. C'est pas une question de pion. Trudeau a tout à fait tort. Tant que l'humanité a existé, gang, chaque société puis chaque religion significative a sagement fait confiance aux personnes qui ont amené les enfants au monde pour les élever, esti, sachant que personne d'autre ne souciait d'eux autant et aussi profondément que leurs parents. Puis si la crise d'extrême droite ou quoi que ce soit, bon, qui a dit que les parents ont un droit légal et plus important encore, le droit moral de veiller au meilleur intérêt de leurs enfants. Alors, c'est eux autres qui sont en phase avec l'histoire et la biologie à ce sujet-là. Même si Trudeau peut être en désaccord avec eux autres. Parce qu'on dirait que Trudeau, la biologie, là, vraisemblablement, là, ça n'a pas descendu là, à un niveau très, 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 très intéressant dans sa tête. Là. Le gars, là, il n'est pas là, là. Lui, il applique des dogmes. Mais c'est même pas un problème de droite ou de gauche. Là. Non, non, non. Il se peut qu'il y ait des parents, bon, catholiques, à l'esprit conservateur en Occident, bon, ça se peut que ce soit un stéréotype utile pour les militants, bon, du type Trudeau, là. Oui, c'est juste des extrémistes pour rallier le soutien dans le centre du Canada. Trudeau a besoin d'ennemis. Puis ces ennemis-là, il est en train de les mettre dans un coin, là. Fait que, faut attendre, bon, que la transition Trudeau passe au centre de la scène. Pour l'instant, les parents à l'esprit conservateur, bon, ils pourraient prendre leur place avec les travailleurs de l'énergie qui conduisent des camionnettes, puis les cow-boys qui, bon, qui élèvent des bouvillons qui chient, là. Mais est-ce que quelqu'un, même notre premier ministre en chef, pense sérieusement qu'il n'y a pas d'électeur du NPD, pas d'électeur vert, pas d'électeur du Bloc québécois, que le ciel nous aide, pas même d'électeurs libéraux, qui sont, seraient bon, mortifiés d'apprendre que les conseillers scolaires facilitent la transition de leur enfant de 13 ans vers le domaine queer ou vers le changement de sexe? C'est sûr que non. Fait que, faut garder les droits parentaux entre les parties. On devrait tous concéder que, bon, si les parents veulent changer de sexe, c'est leur affaire. Bon, ils devraient être facturés de la façon dont les traitements, de la même manière que les traitements au Botox sont facturés, c'est-à-dire à l'adresse de la personne qui vit. Calé, ça suffit. Là. Mais c'est une chose qui unit les gens là, des lignes de parti. Christiane affaire qui unit les gens, là, c'est bel et bien l'amour de leurs enfants. Puis, l'autre affaire qui les unit, c'est une hargne, un désir féroce de protéger ces enfants-là. Alors, si une opération de changement de sexe est ce qui est le mieux, c'est rarement le cas, soit dit en passant, c'est une décision à prendre avec maman et papa, peu importe pour qui on vote. Parce que oui, maman et papa peuvent accompagner un enfant à changer de sexe s'ils désirent réellement rentrer dans le processus, puis le faire. Pourquoi est-ce que le PM du Canada se mêle de ça? Ça ne le regarde pas. C'est pas un hack au conseil scolaire qui n'a aucun intérêt affectueux pour cet enfant-là. C'est pas au premier ministre de le condamner comme extrême droite si ça passe au travers d'un spectre. Puis au fait, là, alors qu'on parle de ridicule, là, bon, c'est crissement triste qu'un homme qui se soucie de la fierté ce mois-ci soit pas trop fier d'utiliser ses attributs masculins de vitesse et de force pour concourir et gagner dans les sports féminins. Et puis pour célébrer une victoire qui devrait en fait être une honte. Mais au lieu de cela, toutes les personnes qui devraient appeler ça, là, bien, ils vont se tasser. Puis même si Trudeau, qui dit que le consentement parental, c'est rien qu'une affaire d'extrême droite, puis que, bon, si une femme transgenre dit qu'elle est une femme, eh bien, elle est une femme. Alors, Maxime Bernier, bon, on me laisse parfois un peu au bout de ma chaîne, là, mais sur ce point-là, je suis d'accord avec lui, là. C'est juste que les femmes trans sont en fait pas des femmes. C'est des gars qui s'habillent en filles, puis des fois, il y en a qui, bon, mutilent le corps pour ressembler davantage à des femmes. Alors, c'est rien que ça. Tu sais, non pas que le Canada des années 50, bon, c'est ça, jamais la norme, la communauté civilisée. Non, non, maintenant, on n'est plus là, calice. Mais je peux garantir qu'il y avait un petit peu plus de bon sens à cette époque-là. Alors, tout jeune homme qui revendiquait le droit de concourir dans des compétitions d'athlétisme contre les filles, il aurait été ridiculisé en dehors du stade. D'abord par ses pairs, puis par tout le monde. De son directeur aux associations d'athlétisme, à tous les journaux, avec, dans la page sportive. Alors, tout ce monde-là, qui lise aujourd'hui la vieille femme sur les nouveaux vêtements de l'empereur, au lieu de s'identifier à l'enfant naïf qui a déclaré toute cette évidence-là, bien, il s'identifierait à une foule qui capote. Fait que c'est tentant de considérer Trudeau comme un imbécile. Cependant, il est tout sauf ça. C'est lui qui change le pays bon et décent pour s'adapter à ses préjugés. Et ceux qui ne partagent pas sa vision perverse sont incapables d'arrêter ça. En ce qui concerne la sexualité des enfants, je doute qu'il croit réellement ses propres paroles. Là. Non, non, c'est un jeu politique. Là. Bon, il y en a des enfants, là. Il y a des raisons d'avantage électoral dans tout ça. Puis, tu sais, si vous croyez qu'il est sérieux, là, non, non, le gars nous joue une game, là, en d'autres termes. pour aller chercher le vote progressiste. Il va soutenir le monde qui veut gâcher l'esprit corps des jeunes. Il va saccager, pour avoir rappelé et perpétré cette mauvaise absurdité, pour le bien du pouvoir politique. Donc, non, Trudeau n'est pas un imbécile, c'est un manipulateur narcissique. Le gars, il est complètement fucké. Bon, j'en ai assez parlé de Trudeau, me donne le goût de vomir. J'ai le goût de vous parler de notre petit moment avec Shania Twain. J'utiliserai pas Shania Twain pour décrire la madame. Je vais tout simplement l'appeler Madame Twain parce que la personne qu'on a vue, c'est une madame avec un gros M majuscule. Elle en a fait plus pour le genre féminin, le féminisme que n'importe qui au Canada. Et non seulement ça, elle en a fait également pour la communauté LGBT. Elle est très appréciée de la communauté LGBT. J'ai vu une artiste renouvelée samedi. J'ai vu une personne qui a des affinités avec cette communauté-là, mais j'ai pas vu de drapeau, j'ai pas vu de politique dans ce show-là. Puis s'il y avait des gens de la communauté, ils ont été très discrets et très classe. J'ai vu une féministe correcte avec une énergie d'une femme de 57 ans qui est insurpassable. Elle nous a remémoré énormément de souvenirs quand on l'a vu arriver avec sa robe en forme de léopard, un motif léopard, qui lui fait encore à merveille quand elle a fait la vidéo dans le désert. Là, si tout le monde se souvient, c'est une vidéo historique. Et puis, j'ai vu la personne à 4 pouces de mon nez. J'étais bien installé. Je pense que vous avez tous été aux premières loges pour voir la captation qu'on a fait de ce spectacle-là. J'ai vu une madame qui s'était déguisée pour l'occasion parce que Shania Twain, elle a 26 dates, donc elle a 26 attributs de scène, c'est-à-dire une perruque et un costume différent pour chaque soir. C'est un concept qui est intéressant. J'ai vu une artiste renouvelée qui nous présente autre chose que juste des chansons de cow-boy. Là. Non, non, c'est très actuel. La mise en scène était extraordinaire. On a passé un très bon moment, mais ma conjointe, elle a été un petit peu émotive, c'est sûr. Tellement de souvenirs qui lui sont revenus en regardant ce spectacle-là et surtout à faire face avec Madame Twain. Moi, je vais vous dire une chose. Là. J'étais là, je prenais le téléphone cellulaire puis je faisais la captation pour vous le partager. Tabarnak! Je me sentais pas gros dans mes culottes quand Madame Twain est arrivée en chantant face à moi, à peu près à 4 pouces de moi. J'étais entre Shania Twain et ma blonde. Déjà, ma blonde, c'est déjà quelqu'un, pour ceux-là qu'elle connaisse. Je me sentais pas gros dans mes shorts. Je me sentais comme un petit enfant de 8 ans. Parce que Madame Twain, elle a une énergie extraordinaire. Elle s'est renouvelée. Pour la toune de Michaud, eh bien, je vous partage celle-ci. C'est parti! Et c'est renouvelé, mesdames et messieurs. Shania Twain avec son cheval. C'est plus ça. Yes!
Stolen, it's true. It's true. Gotta be now or never. Tell me when forever. Let's go. Dress up quickly like ever been. No, we won't stop at the ceiling. So let's keep waking up.
Ah, c'est tellement incroyable comme musique, ça fait tellement du bien. Et je vous suggère l'édition royale de l'album. C'est un truc qui est produit en Angleterre. C'est très, très actuel. Le son est formidable. Vous ne manquerez pas votre coup. C'est une très bonne musique pour rouler très vite à bord de votre Jeep ou à bord de votre char. All top baissé, puis let's go, on s'en va dans le tapon. OK, là, il faut que je parle de Trump. Ça a l'air à ça, parce que Trump, c'est en mode. Si tu parles pas de Trump, tu pognes pas sur Internet, surtout dans l'Internet de la droite. Ben oui, l'ancien procureur général Bill Barr. Bill Barr. Barr. Comme le nom du poisson, Barr. Il a déclaré dimanche que l'affaire qui a conduit l'inculpation de Trump, bon, pour des accusations fédérales liées à sa gestion des fameux documents classifiés, c'était entièrement de son fait puis de sa faute. Bon, alors, écoutez, Trump et ses partisans, selon Bill Barr, ont affirmé que le Presidential Record Act lui permettait d'emporter certains de ses documents à Mar-a-Lago, mais Alex Thompson d'Axios note que l'acte d'accusation ne mentionne pas cette loi-là et que la question principale est de savoir si Trump avait le pouvoir de conserver les documents relatifs à la sécurité nationale chez eux. Alors, bon, si on prend un zoom sur l'acte d'accusation, ça nous dit que la théorie juridique selon laquelle il peut prendre des plans, bon, de bataille, etc., des informations sensibles relatives à la sécurité nationale en tant que document personnel est absurde. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Barr qui le dit au sujet de son ancien boss. Il a dit ça lors d'une interview accordée à CBS dimanche. C'est aussi farfelu que la doctrine juridique qu'ils ont élaborée pour que le vice-président détermine unilatéralement qui a gagné l'élection. Bon, il a déclaré ça, Bill Barr, à Robert Costa sur CBS. Alors, Barr a également qualifié Trump de gamin provocateur de 9 ans et de narcissique consommé qui s'engage constamment dans une conduite imprudente. Oui, mais je n'aime pas l'idée que l'ancien président purge une peine de prison, selon lui. Alors, Chris, fais-toi une idée. Tu l'accuses, tu m'emmènes de bas. Le gars, il va se faire emprisonner. Tu sais, je veux dire, bon. Alors, si on prend un peu de recul. Il faut dire que Barr est autrefois considéré comme un allié de Trump. Mais l'ancien président, le Trump 45, s'est emporté un peu contre lui en septembre, après que l'ancien procureur général, Barr lui-même, lui a déclaré qu'il n'y avait aucune raison légitime pour que des documents classifiés se trouvent à Mar-a-Lago. Alors, bon, cette fois, bon, Trump n'est pas victime d'une chasse aux sorcières. La situation est entièrement de sa faute, de son fait. Alors, bon, depuis qu'il est président, Trump a été inculpé en... Bon, excusez-moi, non. Depuis que le président Trump a été inculpé en Floride la semaine passée, bon, il y a beaucoup de gens comme nous autres qui lisent et qui écoutent des médias conservateurs qui ont entendu un message singulier. La version longue, c'est la suivante. C'est la victime d'une chasse aux sorcières politique menée par le Deep State au cours d'une campagne présidentielle afin d'éliminer, bon, le candidat Trump en personne. Bon, si quelqu'un est sensible à ce genre de logique, bon, c'est bien moi, mais à un moment donné, il faut en prendre, il faut en laisser. Il faut dire que Trump a été victime de chasse aux sorcières menée par des ennemis obsessionnels qui étaient prêts à tout pour le crisser en bas du bus. Il faut dire qu'à ces occasions-là, notamment dans le cadre du Russiagate, puis plus récemment, des actions civiles et pénales intentées contre lui à New York. Bon, moi, j'ai pas hésité à le défendre ici ou dans ma tête ou sur Twitter ou whatever. Mais il faut dire que il y en a beaucoup de gens qui ont été témoins en direct du traitement injuste puis venimeux dont lui puis les membres de son administration ont souvent fait objet. Fait que, tu sais, c'est vrai, puis on le sait tous très bien que Trump est un homme profondément imparfait puis incorrigible. C'est un vieux calice. Bon, et qui, par sa malhonnêteté puis son insouciance autodestructrice, il provoque souvent des catastrophes pour lui-même puis pour son pays. Même ses partisans, qui ne peuvent pas s'empêcher de reconnaître qu'ils sont pires ennemis, le savent. Fait que c'est quoi qui est important pour les États-Unis d'Amérique? Bien, écoutez, dans l'intérêt du pays, des républicains, puis de respect élémentaire de la vérité, c'est temps que les républicains se rendent compte des dures vérités sur la conduite du président Trump, 45, puis de ses implications. Puis il faut dire qu'au premier rang de ces vérités-là, ben, l'inculpation de Donald n'est pas le résultat d'une persécution gouvernementale injuste. Non, non. C'est une situation qu'il a créée lui-même. Les efforts déployés pour présenter Trump comme une victime dans l'affaire des documents de Mar-a-Lago, ça relève d'une propagande politique cynique. Fait qu'il y a des faits là-dedans, là, à propos des documents. Là. Quand il a quitté ses fonctions, Trump il a illégalement retiré de la Maison-Blanche des centaines de documents qui sont quand même sensibles, que le pays possède en matière de défense nationale. Il y a beaucoup d'informations sur les capacités de défense américaines, puis beaucoup d'informations à propos des pays étrangers, sur les programmes nucléaires, bon, au pays puis ailleurs, sur les vulnérabilités potentielles des Américains puis de leurs alliés, sur les plans de représailles potentiels en cas d'attaque. Bon, fait que la manipulation de tous ces documents-là dans les salles de bain, dans les salles de bal de Mar-a-Lago, c'était contraire à la loi fédérale. Ça a exposé le pays à un risque intolérable. Le gouvernement avait tous les droits, en fait. Il n'y avait pas d'autre choix que de récupérer les hosties de papier en question, là. T'sais, on va arrêter de se raconter des histoires parce qu'on aime Trump. Bon, il faut regarder ce qui se passe. Ça n'avait pas rapport là, ça. Il faut dire que les archives nationales américaines et le ministère de la Justice, on dit qu'ils se sont retenus un peu dans les tentatives. Ils ont donné à Trump toutes les chances possibles de résoudre l'affaire en douce pendant à peu près un an, là. Mais Trump, il a fait de l'obstruction. Il a envoyé chier bien du monde. Il a ignoré les avertissements répétés de ses conseillers. Ils ont dit qu'ils jouaient avec le feu. L'acte d'accusation décrit en détail comment Trump s'est crissé d'une citation comparée d'un grand jury pour obtenir les papiers en question. Il a fait obstruction de manière trompeuse à cette citation comparée-là. Il a menti à son propre avocat. Puis il a joué un jeu de passe-passe pour dissimuler une grande partie des papiers. Il faut se dire que si ces faits-là sont avérés, il s'agit d'un crime flagrant. C'est épouvantable. Ce qu'il aurait fait, je ne dis pas qu'il l'a fait, mais ça semble s'en aller vers là. Tu sais, ça valait quoi ces crises de papier-là? Pourquoi Trump il risquait la sécurité nationale en s'accrochant à des papiers alors que le gouvernement lui demande légalement de les restituer comme trophée? C'est un trophée. Parce qu'il pensait qu'il s'agissait d'un tour de passe-passe amusant? Parce qu'il pensait que ça serait cool de montrer ces papiers-là à des invités ou parce qu'il pensait pouvoir s'en sortir? Écoutez, est-ce que c'est un acte d'affirmation de soi destiné à satisfaire son propre ego? Je vous pose la question. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont tenté de présenter cette affaire-là comme un litige concernant la garde des papiers, les défenseurs de Trump. Ils ont inventé des arguments crissement bizarres, selon lesquels le Presidential Records Act, une loi censée interdire aux anciens présidents de retirer des documents officiels de la Maison-Blanche, devrait être interprété comme donnant à Trump une carte blanche pour tirer ce qu'il veut. Même s'il s'agit de documents officiels, ces justifications-là, c'est pas juste niaiseux, c'est hors sujet. Ça ignore la raison principale pour laquelle l'ancien président Donald Trump a été inculpé, c'est-à-dire l'obstruction calculée et trompeuse qu'il a opposée à l'assignation d'un grand jury. Puis moi, gang, là, je l'aime Trump, là. Je suis pas en train de le bâcher, là. C'est juste que je comprends crissement pas pourquoi il a fait ça. Ça avait pas rapport de garder les hosties de papier. Il aurait pu consulter pareil. T'sais, le fait que Trump n'avait pas le droit de tirer les crises de papier relatifs à la Défense nationale, bon, la Maison-Blanche, ça n'a pas fait l'objet d'un calice de débat. Ces documents-là, c'est la quintessence même des documents que la loi interdit expressément à un président qui sort des fonctions de l'emporter avec lui. En vertu de la loi sur les archives présidentielles, lors d'un changement d'administration, les documents officiels qui sont liés à la conduite des affaires gouvernementales doivent rester à la Maison-Blanche sous la garde et le contrôle du gouvernement américain. Parce que le gouvernement américain est au-dessus de la personne qui incarne l'exécutif. C'est clair, hein? On dirait qu'ici, au Québec, là, on comprend pas ça, là. Il y a trois paliers décisionnels au gouvernement américain, là. Fait que les seuls papiers qu'un président qui sort de fonction est autorisé à apporter avec lui, c'est des documents purement privés, sans rapport avec les fonctions officielles, comme les journaux intimes, ou des notes personnelles qui ne sont pas préparées ou utilisées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Les seuls papiers que le président sortant est autorisé à apporter avec lui sont les documents purement privés sans rapport avec des fonctions officielles. C'est clair, net et c'est clair comme l'eau de roche, là. C'est tous des papiers qui ne sont pas préparés ou utilisés pour diffuser ou communiquer dans le cadre des affaires du gouvernement américain, des affaires courantes. C'est évident que les documents en question ont été produits et utilisés par des fonctionnaires de la défense, du renseignement et de la sécurité nationale qui ont été remis au président dans le cadre de la conduite des affaires courantes du gouvernement. Il n'existe simplement pas d'univers dans lequel ces papiers-là pourraient être considérés comme des documents purement privés, comme un journal intime, par exemple. C'est pourquoi le monde qui défend Trump n'essaie même pas de soutenir que ces papiers-là sont privés. Au lieu de ça, il avance un argument bidon, peut-être encore plus fou que leur argument selon lequel le vice-président Pence pourrait décider unilatéralement l'élection du 6 janvier, selon lequel le président sortant dispose d'une discrétion absolue pour qualifier n'importe quel document de privé. Mais si le document tombe, bon, en dehors de la définition statutaire du terme privé. Fait qu'en d'autres termes, il ne se contente pas de dire qu'un président dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire pour déterminer si quelque chose de gris doit être traité comme étant noir ou blanc, là. Il affirme qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire total pour qualifier de blanc quelque chose d'incontestablement noir. Puis si c'est vraiment vrai, ça éviscère toute évidence l'ensemble de la loi sur les archives présidentielles. Fait qu'il y a eu de l'obstruction aussi de la part de Trump. Là. Tout le bordel autour des droits supposés de Trump en vertu de la loi sur les archives présidentielles, c'est rien qu'un spectacle de circonstances parce que, dans le fond, il s'agit d'une affaire d'obstruction à la justice. Trump, il n'aurait pas été inculpé simplement pour avoir pris des papiers en premier lieu. Non, non. Il n'aurait pas non plus été inculpé, même s'il avait retardé, bon, de retourner les astuces de papier pendant un certain temps tout en discutant de la question avec le monde qui était attaché au dossier. Ce qui a valu à Trump d'être inculpé au pénal, c'est la bullshit et l'obstruction qu'il a fait preuve en répondant à la citation incomparable du grand jury en 2022, au mois de mai. Parce qu'il avait fait obstruction au gouvernement pendant un an à propos de ces hosties de papier-là. Ça fait qu'il n'y a rien à comprendre dans son comportement. C'est complètement en cave. Fait que la citation incomparable, ça visait à obtenir tous les papiers en possession de Trump qui étaient marqués comme étant classifiés, même s'ils sont plus ou moins importants qu'il y en a qui disent qu'ils sont. Si Trump pensait vraiment qu'il disposait d'une base solide pour conserver les papiers, il existait des moyens simples de faire valoir ces arguments-là en toute légalité là, dans le temps. Il aurait notamment pu engager une action en justice pour faire annuler la citation comparée ou demander à un tribunal de déclarer qu'il avait le droit de conserver les hosties de papier, mais il n'a rien fait de ça. Au contraire, là, si on regarde l'acte d'accusation, il a fait croire au gouvernement qu'il se conformerait à une citation à comparaître en disant au ministère de la Justice qu'il était un livre ouvert. Puis dans le même temps, il a dit à son propre avocat qu'il serait préférable de dire, bon, au ministère de la Justice, qu'il n'y avait pas les documents. Puis il a suggéré à son avocat de retirer les documents vraiment mauvais avant de donner quoi que ce soit au gouvernement. Chris, ça n'a pas de sens. Pourquoi Trump? Il aurait dit ces hosties d'affaires-là à son avocat s'il pensait vraiment avoir une bonne base juridique pour conserver tous les papiers. Ça ne fait pas de sens. Puis, également, il y a un fait essentiel. Puis c'est ce qui a finalement conduit le ministère de la Justice à inculper Trump 45. C'est la conclusion du ministère selon laquelle Trump s'est personnellement engagé dans une démarche scandaleuse de tromperie pour faire obstruction à l'enquête du grand jury. L'acte d'accusation allègue en détail que Trump a fait croire à son avocat qu'il serait autorisé à procéder à une fouille complète de toutes les boîtes susceptibles de contenir les hosties de papier en question. Après ça, Trump, il a pris des dispositions à l'insu de son avocat pour qu'un grand nombre de boîtes soient tirées de la pièce à fouiller, s'empêchant ainsi une fouille complète. Puis après ça, Trump, il a fait en sorte que son avocat dépose une fausse déclaration auprès du tribunal qui indiquait qu'il avait procédé à une fouille complète. Fait que, si c'est vrai ça, là, puis de nombreux faits essentiels, ça provient de l'avocat de Trump lui-même. C'est une conduite criminelle effrontée. Peut-être justifié d'aucune manière de la part d'un ancien président. Le gars, il est même plus digne de représenter le gouvernement une autre fois. Tu sais, puis après ça, il y a l'argument du deux poids, deux mesures. Puis allez pas penser que je le bâche, Trump, là. Moi, je regarde ce qui se passe, hostie, là. Je l'aime, Trump. Je sais quand c'est Trump que là, il n'y a pas de guerre. X raison, là. Mais Chris, Il y a du monde chez les Républicains là, qui essaie même pas de défendre son comportement. Là. Au lieu de ça, là, il souligne le double standard. Bon, il y en a qui arguent que c'est injuste d'accuser Trump. Bon, c'est tout. Alors que Clinton, Hillary, Hillary, s'en est tiré à bon compte sur l'administration Obama pour un comportement qui était quand même comparable. Fait que Trump, il arrive, il dit « Hey, calice, Hillary s'en est sorti, maman sorti, moi aussi. » Tu sais, il y a deux poids, deux mesures. Tu sais, bon. Le ministère de la Justice, des fois, là, il poursuit pour des actes répréhensibles présumés des républicains avec plus d'ardeur que lorsque les allégations impliquent des démocrates. Ça, c'est un fait, là. Je suis d'accord pour dire que le traitement différencié d'Hillary Clinton, c'est un bon exemple. Tu sais, il faut se rappeler sur l'administration Obama. Le ministère de la Justice a mené une enquête tout à fait inadéquate sur l'utilisation de Hillary Clinton d'un serveur de messagerie privée, puis sur la destruction intentionnelle du serveur avant que le ministère n'ait eu une chance suffisante de checker tout ce qu'il y avait là-dedans. Il y a eu une enquête déficiente associée à l'octroi d'une immunité générale aux principales personnes impliquées dans ce dossier-là. Ça l'a empêché ensuite d'imposer une responsabilité appropriée aux personnes qui étaient responsables. Le double standard, il est réel. Répondre à l'inculpation de Trump en invoquant de manière répétitive ce grief-là, c'est de la bullshit. Ça a lieu des vraies questions soulevées par le comportement de Trump. La question est la suivante. Trump, y aurait-tu dû bénéficier d'un passe-droit de la part du ministère de la Justice simplement parce que, bon, Hillary Clinton l'a peut-être été? Hey, je ne suis pas convaincu, là. C'est pas évident de donner un laissez-passer à Trump, tu sais, pour restaurer l'état de droit puis de mettre fin à la pratique des deux poids, deux mesures. Parce qu'on le sait que quand c'est de la gauche, ah, oh, ça passe tout le temps. Eux autres, là, ils sont comme des bons dieux, là. Bien, il ne s'agit pas d'un coup où le gouvernement américain a étiré la loi ou fabriqué un délit, là. Non, non, non. Il a exécuté un contrat sur quelqu'un. Il n'a pas vraiment fait de mal. L'argument avancé par les défenseurs de Trump, c'est plutôt que même si sa conduite de Trump était indéfendable et constituait probablement un crime crissement grave, Hillary a fait la même affaire. Puis il est injuste qu'Hillary s'en soit tiré. Ça, on le sait. C'est une crise de folle. Alors, si Trump s'est engagé dans le type de conduite criminelle effrontée qu'on lui reproche, l'application de la loi dans son cas, ce n'est pas injuste pour lui. Là. L'injustice, ça réside dans le fait de ne pas avoir appliqué, il y a 7 ans, la loi à Hillary Clinton. On ne corrige pas une omission en donnant un passe-droit au futur contrevenant. On la corrige, là, la situation, en appliquant la bonne norme à l'affaire en question puis en insistant pour qu'elle soit appliquée à des affaires comparables dans le futur. En l'occurrence, il s'agit de veiller à ce que la même norme soit appliquée dans les enquêtes en cours sur Hunter Biden et sur la façon dont le président Biden, 46, a traité les hosties de papier en question. Fait qu'en bref, au lieu de capoter avec ça, il faut se dire que le fait d'accorder un laissez-passer à Trump, ça pourrait nuire davantage à l'état de droit que d'appliquer honnêtement la loi à son égard. L'état de droit ne sera pas rétabli en dégradant davantage l'état de droit. T'sais, la position est intenable. Même si on accepte l'argument du deux poids, deux mesures, bon, ça justifie tout au plus qu'on ne tienne pas Trump pour responsable sur le plan pénal. Ça ne signifie pas que sa conduite était moins scandaleuse. Puis c'est là qu'il y a trop de républicains qui s'effondrent. Là. C'est une chose d'affirmer que Trump ne devrait pas être tenu pénalement responsable. OK, là. La question est la suivante qui s'impose. Hein. C'est de savoir si, compte tenu de sa conduite, les républicains devraient continuer à le promouvoir pour la plus haute fonction du pays. Il y a beaucoup de républicains qui évitent la question, qui soutiennent donc implicitement la candidature de Trump à la présidence, en dépit de son comportement flagrant. La position est intenable. Il y a beaucoup de républicains loyaux qui se sont instinctivement précipités sur les remparts pour défendre Trump, là. Tu sais, c'est une impulsion qui est comprenable, mais à chaque nouvelle révélation, ils ont l'air de plus en plus fous, là. Souvenez-vous de l'annonce de la perquisition du FBI à Mar-a-Lago, là, les hurlements des partisans de Trump, ils étaient là. T'sais, pourquoi le gouvernement a-t-il tout simplement pas demandé à récupérer les crises de papier? T'sais, oui, le gouvernement l'a fait, poliment, pendant à peu près 1 an. Il s'est fait rouler dans la farine, comme des éperlans. Les partisans de Trump, ils ont changé de tactique. Alors, pourquoi ils n'ont pas utilisé une citation comparaître avant de procéder à une perquisition? Eh bien, il s'avère qu'ils ont omis une citation. Ils en ont émis une citation comparaître discrètement 3 mois avant qu'ils rentrent là-dedans et qu'ils fassent une perquisition. Puis la perquisition a eu lieu qu'après que le gouvernement a obtenu une vidéo de surveillance qui suggérait la réponse à la citation comparaître, les documents avaient été illégalement retenus, puis ainsi de suite. Alors, quand c'est le moment de défendre Trump, c'est toujours prudent de ne pas s'aventurer trop loin, tant que les faits ne sont pas connus, les faits au complet. Là. Ça serait sage de considérer que le département de la justice a retenu beaucoup d'informations, puis que tout ça, ça va être dévoilé dans les semaines à venir. Mais ce qu'on sait déjà sur le comportement de Trump, ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas d'allure. Il faut être prudent avant de défendre quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Parce que vous ne connaissez pas Trump, là. Ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez à TV, là. Le gars, là, lui, là, il fait ses affaires, puis il s'en calisse, là. On le voit qu'il s'en calisse, mais ce qui est important de se poser la question, c'est pourquoi il s'est accroché à ces papiers-là qui n'avaient pas vraiment de valeur, puis qu'il aurait pu, qu'il connaissait probablement déjà le contenu, puis pourquoi? Ça n'a pas de sens. Vous pensez qu'un gars comme ça peut occuper la présidence? Je ne dis pas qu'un autre est meilleur. Mais ce qui est important de savoir, c'est pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a étiré la sauce à ce point-là. C'est ça qui est important de savoir dans toute l'histoire. Puis oui, Hillary Clinton était coupable. Puis oui, ils ne sont pas clean. Puis oui, il n'y a rien de parfait. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On sait tous qu'il ne faut pas que Biden revienne. On le sait tous, ça. Anyway, le bonhomme, il va peut-être péter avant ça. Espérons-le. Hey, merci d'avoir écouté cette édition exclusive de Distoman sur distoman.com. Une présentation de guyboulian.info et de radioimpact.ca. J'espère que vous avez passé du bon temps avec nous autres. Sur ce, gang, on se revoit pour un autre segment lundi prochain. Take care. Ciao.
Vous souhaitez obtenir des faits et non pas des fake news? Visitez le site de l'auteur et journaliste Guy Boulian. Actualité, politique, histoire, légende, culture, art et lettres, nouvel ordre mondial et conspiration. Avec Guy Boulian, ayez toujours l'heure juste avec des informations sourcées et référencées. Visitez dès maintenant www.guyboulian.info. Yeah.
Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention, se tenant en dehors de tout conspirationnisme. Radio Impact.
Pénurie de matières premières, augmentation des prix, inflation, panne de réseau internet, instauration d'un pass sanitaire illégal, vaccination forcée. Il y a quelque chose dans l'air qui couve.
Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays.
D'après Jacques Attali, il pourrait y avoir une révolution dans notre pays avant 2022. Et c'est nous, le peuple, poussé à bout, qui s'y engouffrerait.
Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire.
Le pire ? Quoi le pire ? L'armée dans les rues ? Une loi martiale ? L'instauration d'un fascisme d'État ?
En plus que je pense que si d'ici à 2022, le pays n'a pas fait toutes les réformes qu'il doit faire démocratiquement, lucidement, eh bien en 2022, ça sera le déclin et le Front National ou quelqu'un du même genre arrivera au pouvoir.
Il y a quelque chose dans l'air qui couve. Et pour ne pas citer Antonio Gramsci, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Alors gare au vent qui vient. Puces électroniques, bois, acier, cuivre, métaux non ferreux, voici la liste non exhaustive des pénuries auxquelles l'industrie fait face. En cause, un choc de l'offre et de la demande conséquentiel aux restrictions sanitaires. Pendant plus d'un an, toutes les productions ont été ralenties pour éviter les surstockages. Mais avec la reprise, les demandes de composants essentiels à la production ont explosé et l'offre n'a pas pu suivre. La loi du marché étant ce qu'elle est, augmentation de la demande et baisse de l'offre égale augmentation des prix. Dans le système libéral où tout est à flux tendu pour optimiser les coûts, les fabricants asiatiques de puces électroniques ont été mis à rude épreuve pour soutenir la demande très gourmande en semi-conducteurs intégrés nécessaires à la fabrication de voitures, réfrigérateurs, ordinateurs et gadgets connectés qui inondent notre société de consommation. De même, le secteur du BTP peine à se fournir en bois, en acier et même en peinture, dont les prix ont parfois augmenté jusqu'à 100% et dont les délais d'approvisionnement sont si lents qu'un tiers des chantiers en France sont à l'arrêt ou fortement ralentis. Le secteur agricole ne se porte pas mieux. En Amérique du Sud et en Australie, de violentes sécheresses accompagnées d'invasions de souris dans le Queensland ont ravagé les récoltes de céréales et leur cours sur le marché mondial a augmenté de 32% depuis l'an dernier. En Chine, les restrictions sanitaires ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, ralentissant le fret, ce qui a tendu encore davantage les exportations céréalières. En France, les épisodes de gel au printemps ont détruit jusqu'à 70% des récoltes maraîchères et viticoles dans le sud du pays. Il y a fort à penser que certaines pénuries sont organisées en amont. D'après certains témoignages, les gouvernements ou les grands propriétaires terriens laisseraient pourrir des récoltes dans des entrepôts. Bill Gates est aujourd'hui le plus grand propriétaire de surfaces agricoles aux États-Unis. On peut donc se demander si le loustic n'organiserait pas en amont des pénuries pour engendrer des famines et faire s'effondrer le système actuel, pour imposer le nouveau modèle économique agricole de demain, contrôlé rationnellement et technologiquement. De plus, la baisse du pouvoir d'achat, le chômage de masse et les dettes forceraient les gens à quémander le revenu universel. Au niveau de l'énergie, l'impact pourrait être plus fort encore. Les tarifs du gaz augmentent de 12% en octobre, la facture d'électricité bondira également de 12% début 2022, et les prix à la pompe affleurent déjà les 2 euros le litre. C'est plus que ce qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018. Les raisons de ces augmentations sont floues et complexes. Le prix du pétrole s'était effondré en mars 2020 à cause d'une baisse drastique de la demande, puisque le monde entier était confiné et à l'arrêt. Mais sous l'effet d'une reprise accélérée, les industries retournent à plein régime, entraînant une surconsommation d'énergie. Une des explications de l'augmentation du prix du gaz naturel en Europe est d'ordre géopolitique. La Russie est en train de construire un immense gazoduc en mer Baltique, le Nord Stream 2, pour approvisionner l'Allemagne et l'Europe en gaz russe. Mais les États-Unis s'opposent à ce projet qui renforce considérablement l'influence de la Russie sur l'Union européenne, dépendante de son énergie. Si un premier accord a été trouvé entre l'Allemagne, les États-Unis et la Russie en juillet 2021, les Russes maintiennent la pression en baissant le flux de gaz, ce qui fait monter les prix. Pour le pétrole, l'explication géopolitique prévaut également. L'Arabie Saoudite et la Russie refusent d'augmenter la production pour faire baisser les prix, et le baril de Brent devrait atteindre ce mois-ci les 90$, une augmentation de 52% depuis le début de l'année. Au Royaume-Uni, la pénurie des carburants est apparemment due à une pénurie de main-d'œuvre, car avec le Brexit, il n'y a plus assez de chauffeurs routiers étrangers pour transporter le carburant des terminaux aux stations-service, si bien que le gouvernement britannique a recours à l'armée. Ensuite, la banque Goldman Sachs spécule à la hausse sur les prix du pétrole dans le cadre d'un grand projet d'investissement au nom cocasse, The New Oil Order. Goldman Sachs investit dans des installations de terminaux pétroliers technologiques de par le monde et profite grassement de la montée des prix du pétrole qui leur permet d'augmenter les dividendes à leurs actionnaires. Évidemment, ces tensions sur les énergies fossiles servent le plan de l'agenda 2030 des Nations Unies pour la transition énergétique, puisqu'une montée des prix du fossile rendra plus compétitif le prix des énergies renouvelables. Une des solutions proposées pour réguler nos consommations d'énergie est l'usage des smart grids ou réseaux intelligents qui permettra de contrôler toutes les consommations individuelles et adapter l'octroi, ou non, et le flux de l'électricité aux millions d'objets connectés. C'est pour cela que les compteurs Linky ont d'ailleurs été imposés aux Français. Pénurie, augmentation des prix et inflation. Voici la situation économique actuelle. Baisse de l'offre égale augmentation des prix égale dépréciation de la monnaie. C'est ça, l'inflation. L'inflation est à 2,2% actuellement, c'est pour ça que le SMIC, qui suit le taux d'inflation, a augmenté de 34 euros en octobre. Une inflation de 2,2% signifie que l'ensemble des prix ont augmenté en moyenne de 2,2% et qu'il faut donc plus d'argent aujourd'hui pour acheter les biens qu'on pouvait obtenir moins cher il y a un an. Et l'euro a donc perdu de sa valeur. Cette inflation a été également créée artificiellement l'an dernier par la Banque Centrale Européenne qui avait augmenté la masse monétaire pour soutenir la demande et baisser le taux d'intérêt pour inciter les entreprises à s'endetter pour investir. Pour baisser l'inflation, les banques centrales pourraient donc décider de freiner la demande, réaugmenter les taux d'intérêt pour diminuer le recours au crédit bancaire, les entreprises investiront moins, embaucheront moins également, les salaires vont stagner et le chômage augmenter. Bref, toutes les conditions sont réunies pour que le pouvoir d'achat se contracte de nouveau et que le peuple se rebelle, que les appels à la grève fleurissent.
Les Gilets jaunes, c'est une révolution, Jacques Attali ?
C'est les prémices de ce qui pourrait être une révolution, oui. Ça renvoie à une colère très profonde.
Mais c'est pas fini, les Gilets jaunes, d'après vous ?
Non, je crois pas du tout. Il y a une colère extrêmement profonde, extrêmement justifiée, qui renvoie au fait que les classes moyennes, les plus modestes, se sentent sans avenir et surtout sentent que leurs enfants n'ont pas d'avenir, ce qui renvoie à votre question précédente.
Dieu sait qu'on en a des raisons pour faire la révolution. Le 12 juillet dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, nous a annoncé cela.
Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent.
Un pass sanitaire prévu de longue date, puisque dès 2016, l'Alliance ID 2020 prépare un processus d'identification digitale mondiale qui inclut un passeport vaccinal sous forme de QR code. Les institutions qui ont fondé et financé le programme ID 2020 sont essentiellement Microsoft, la Fondation Rockefeller et la Gavi, Global Alliance for Vaccines and Immunization, gouvernée et financée par la Fondation Bill et Melinda Gates, l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale et les laboratoires pharmaceutiques. Ce programme d'identification digitale et vaccinale se déploie dans l'Union européenne via la feuille de route proposée par la Commission européenne en 2018 et qui prévoit un passeport vaccinal commun à tous les pays membres de l'UE en 2022. À croire qu'ils ont de l'avance sur le programme. Aujourd'hui donc, dans notre pays, ce qui nous semblait impensable il y a un an s'applique sans plus de résistance. Un pass sanitaire qui déguise une obligation vaccinale sournoise, surtout lorsque les tests ne seront plus remboursés. Aujourd'hui, dans notre pays, pour aller au restaurant, au cinéma, dans certaines bases de loisirs, parcs d'attractions et musées, on doit s'être fait injecter une injection génique sous AMM conditionnel qui n'a été soumise à aucun test de génotoxicité, pharmacotoxicité, cancérotoxicité qui a été fabriqué par des laboratoires déjà condamnés pour pratiques commerciales frauduleuses et qui, au 14 août, avait déjà causé au moins 21 700 morts dans l'Union européenne. Le pass sanitaire nous donne le choix entre santé et liberté. Un pass sanitaire justifié par le mythe de l'immunité collective qu'on atteindrait selon les dires officiels par la vaccination de masse. Un mythe, oui, puisque le vaccin n'empêche pas complètement les transmissions. Cette communication officielle est d'ailleurs démentie par les données des pays où la vaccination a été massive, comme au Royaume-Uni ou en Israël, qui montrent que les personnes vaccinées retombent malades du Covid. Et surtout, comment peut-on obtenir une immunité collective sur un vaccin qui pousse le virus à muter et dont l'efficacité tombe en flèche au bout de 6 mois, si bien qu'on envisage déjà des 3e, 4e, 5e, 6e doses, en bref, un abonnement Pfizer à vie. Enfin, le pass sanitaire vient littéralement exploser le code du travail, le code pénal, le code civil, la déclaration des droits de l'homme et les grands traités d'éthique scientifique. Il faut être aveugle pour ne pas voir que le pass sanitaire n'est pas un instrument sanitaire, mais politique. Et surtout, il faut bien observer qu'il y a une stratégie de long terme derrière ce pass sanitaire qui n'est qu'une première étape vers le traçage généralisé et le crédit social. La réduction en esclavage de la population mondiale. Bref, on a toutes les raisons de faire la révolution. Ne nous leurrons pas. Le gouvernement a plusieurs coups dans sa sacoche. Nos manifestations sont un piège immense qui nous est tendu. Nous n'avons pas le rapport de force pour renverser le gouvernement, et quand bien même nous y parviendrons avec l'appui, moyennement probable, des forces de l'ordre, nous n'avons pas de force politique prête à assumer un état transitoire pour porter une démocratie populaire et la sortie des traités européens. Une révolution du peuple glisserait inévitablement vers le chaos, et le gouvernement répondrait par un ordre sécuritaire encore plus fort. En ce qui concerne les élections, tous les politiques potentiellement intéressants se divisent, allez savoir pourquoi. Et l'État profond est suffisamment malin pour savoir diviser l'opinion et manipuler les élections. À ce propos, que prévoit-il ? Zemmour est le candidat surprise de cette campagne présidentielle. S'il n'est pas encore officiellement candidat, un énorme buzz médiatique est organisé dans les médias et il prend chaque semaine quelques points de plus dans les sondages. Mais à quoi sert-il ? Ce qui paraît le plus évident, c'est que sa candidature sert à diviser les voix de la droite et du Rassemblement National pour assurer un boulevard à Macron. Mais d'autres choses pourraient se produire.
En plus que je pense que si d'ici à 2022, le pays n'a pas fait toutes les réformes qu'il doit faire démocratiquement, lucidement, eh bien, en 2022, ça sera le déclin et le Front National ou quelqu'un du même genre arrivera au pouvoir.
Et si le but était de placer Zemmour à la tête du pouvoir ? Vous jugez cela absurde ? On développera tout ce qu'il faut savoir sur Zemmour dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, voici pourquoi et comment Zemmour pourrait accéder au pouvoir. Le but est l'avènement de l'ordre mondial globaliste. Mais pour ce faire, il faut d'abord éprouver le nationalisme jusqu'au bout pour le faire échouer. Cela fait 30 ans que les Français demandent de la souveraineté, et cette volonté a été sciemment poussée dans les bras de l'extrême droite. Entendons-nous bien, Zemmour n'est pas un candidat souverainiste. Il enrobe autour de lui le capitalisme national et la fracture identitaire. Il servirait à générer une forme de guerre civile entre franco-français et musulmans, justifierait un accroissement de l'état policier et pourrait même entraîner la France dans un déclin et des affrontements géopolitiques majeurs. Dans un monde où le libre-échange globalisé prévaut, tout repli protectionniste, aussi nécessaire soit-il pour les pays, engendrerait des rivalités commerciales fortes, comme c'est déjà le cas entre les États-Unis et la Chine. Et ces rivalités commerciales auront au fait d'aboutir en des conflits sévères. Si la France reprend en main sa souveraineté économique, ce qu'on lui souhaite, les attaques extérieures seront nombreuses, et le pays n'en sortirait pas indemne. Est-ce que c'est cela le but d'une mandature de Zemmour ? Pousser la France vers une série de conflits extérieurs et intérieurs ?
Cette mondialisation aujourd'hui hésite entre plus de mondialisation pour mettre en place l'état de droit ou moins de mondialisation pour revenir sur les frontières fermées. Histoire qu'on a déjà connue à plusieurs reprises dans l'histoire, c'est là où l'histoire est très intéressante. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça parce que je vois que le temps passe. Mais on a connu ça à de nombreuses reprises dans l'histoire et qui s'est toujours traduit par le fait que l'humanité a choisi de revenir en arrière. La dernière, la plus proche de nous, elle n'a qu'un siècle, en 1913-14, on a failli faire une mondialisation réussie. Il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à la période d'aujourd'hui. Puis au dernier moment, on a pris peur et puis on s'est refermé sur nous-mêmes et ça a donné 1914, 1918, 1929, 1933, 1939 et on est sorti de ça qu'en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Donc n'oubliez pas que la situation la meilleure possible peut aboutir à une catastrophe. Et en 1914, personne ne connaissait le nom de Lénine, encore moins celui de Staline, encore moins celui de Mussolini, qui pourtant était un des dirigeants du Parti Socialiste de l'époque, encore moins celui de Hitler, qui allait prendre le pouvoir. Ces gens-là existent potentiellement aujourd'hui quelque part dans le monde. Et si nous avons ce repli que le vertige d'un état de droit planétaire pourrait entraîner, parce que cet état de droit planétaire est nécessaire pour rendre humainement vivable le marché mondial, nous aurons un repli avec des conséquences encore plus gigantesques que cette époque.
À l'issue de 5 années de mandat de Zemmour et du chaos qui en surgira, les Français supplieront pour que plus jamais on ne leur impose le fascisme et la guerre civile. Comme après l'État vichiste et le nazisme, on jurera « plus jamais ça ». Et l'État profond pourra à sa guise imposer le plan globaliste en présentant un ou une candidate libérale et se présenter en sauveur.
Je crois que je connais celle qui viendra après lui.
Ah ben alors ça c'est un nouveau scoop.
Vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme ?
Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a deux dans le privé et une dans le public. Ouais.
Ah.
Oui.
2027, plutôt une femme, présidente ? Alors,
certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Maréchal, Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste.
En 2027. Et puis, on n'aura pas l'info.
Notez bien, les femmes auxquelles Attali a pensé ne sont pas pour 2022, mais pour 2027. Le plan serait donc, comme dans les années 1930 et 1940, faire gagner le nationalisme pour mieux le faire échouer par la suite et préparer l'avènement de la société globale, libérale, comme solution salvatrice. En attendant, l'État profond organise en sous-marin une guerre contre l'islam depuis de nombreuses années, en finançant le terrorisme et organisant des attentats sous faux drapeau pour scléroser l'opinion publique contre ce faux ennemi intérieur et par là même décrédibiliser toute pensée spirituelle ou religieuse. Un nouvel attentat pourrait facilement braquer davantage l'opinion contre le djihadisme, amalgamé à l'islam, et servir la candidature d'Éric Zemmour, qui a en plus quelques atouts charmes dans son sac et des soutiens de poids à faire valoir. Et si la situation sociale s'aggrave et empêche Emmanuel Macron de représenter une candidature crédible, telle qu'il l'a averti l'an dernier, Zemmour, profitant du chaos, accéderait au pouvoir. Alors, face au vent qui vient, et voyant nos marges de manœuvre réduites, notre stratégie ne doit pas consister à se lancer dans un soulèvement désorganisé, ni à avoir foi au pantin présidentiable. Notre stratégie doit au contraire consister à s'organiser dans un grand mouvement souterrain d'entraide clandestine. Soyons toutes et tous, de gauche ou de droite, chrétiens, musulmans, juifs ou athées, soyons tous, sœurs et frères, de résistance. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à rejoindre Renard Buté sur les réseaux. Vous trouverez en description toutes nos sources. Merci à vous tous, chers résistants, et à bientôt.
Thank you.